Bonjour Véronique Baudou.
Bonjour Nathalie.
Voilà, tu es médecin?
Oui, médecin généraliste à la base.
Voilà, et aujourd'hui tu t'occupes des couples?
Entre autres, oui. J'ai pu voir vraiment dans ma pratique que lorsque le couple va bien, la personne va bien. Lorsque le couple va mal, la personne va mal. Et donc pour pouvoir vraiment soigner les gens dans leur globalité, tenir compte de leur relation amoureuse, de leur relation de couple, c'était important et je ne pouvais pas négliger cette dimension-là.
D'accord. Et donc, ce soir, tu vas nous parler de construire les quatre piliers de votre couple.
En effet, les quatre piliers qui me semblent essentiels, et avec mes petites 20 années d'expérience, j'ai pu voir un peu quand est-ce que les couples étaient branlants et quand est-ce qu'ils étaient solides, et essayer de faire une espèce de résumé de quels sont les trucs et astuces pour qu'un couple fonctionne bien.
Et donc aujourd'hui, raconte-nous un petit peu plus ces quatre piliers.
Donc, en fait, moi, ce qui m'a beaucoup étonnée quand j'ai commencé vraiment ma pratique, c'était de voir à quel point les gens plaçaient dans leur couple des espérances importantes, des espérances de réparation, des espérances de bonheur, d'épanouissement, qui étaient peut-être un peu trop élevées, et que parallèlement à ça, ils n'étaient pas du tout formés pour savoir former un couple qui fonctionne bien. Dans les cursus scolaires, on n'a pas de cours qui nous disent comment gérer nos relations et comment gérer nos relations amoureuses. Et autant on est bien formé au niveau d'éventuellement l'activité professionnelle, tout ce qui est théorique, etc., autant au niveau du couple, on se lance un peu dans l'aventure comme ça, au hasard, sans carte ni boussole, et on apprend sur le tas. Sans avoir de formation, on fait des essais, des erreurs, et puis en général, quand on a fait quelques erreurs, c'est seulement à ce moment-là qu'on commence à se poser des questions sur est-ce qu'il existerait des formations, des outils que je pourrais apprendre pour réussir mon couple. On voit d'ailleurs aujourd'hui, je regardais un peu les statistiques pour préparer la conférence, qu'en France, 44,7% des mariages se terminent par un divorce. Et en Belgique, la probabilité est encore plus grande, elle est de 2 sur 3, donc 64,5%. Et la Belgique est située comme championne d'Europe en la matière. Bon, voilà, c'est au moins.
Qu'est-ce qui fait cette spécificité belge?
Bon, ça, je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas. Je ne connais pas suffisamment les différences sociologiques entre la France et la Belgique. Je pense que le Belge étant quand même quelqu'un qui se remet beaucoup en question, il va pouvoir remettre tout en question, donc même ses engagements amoureux. Mais ça, c'est mon explication personnelle. Elle vaut ce qu'elle vaut. Mmh. Alors, pour moi, la grande erreur sur laquelle on se base pour rentrer dans nos relations et rentrer dans l'amour, c'est une erreur qui nous amène vraiment à de grands échecs, et c'est une erreur que j'appelle l'erreur qui tue. Et pour moi, cette erreur, c'est on croit que nos émotions et nos sentiments sont extérieurs à nous, qu'ils sont ou qu'ils ne sont pas. Je suis en colère ou je suis calme, je suis triste ou je suis joyeuse, je suis amoureuse ou je ne suis pas amoureuse. D'ailleurs, les expressions qu'on peut entendre, les expressions populaires, transmettent cette croyance, puisqu'on dit tomber amoureux comme si on avait un accident qu'on n'a pas su contrôler, être envahi par le désir comme si le désir était entré en nous comme un petit démon ou un petit alien, être aveuglé par la jalousie comme si la jalousie était quelqu'un qui vient mettre ses mains sur nos yeux, hein, où l'amour s'est enfoui comme si on avait à peine tourné le dos que paf, l'amour est parti. Et donc, on a vraiment cette croyance que nos sentiments sont extérieurs à nous et qu'on n'a pas de contrôle dessus. Et ça, pour moi, c'est vraiment une grosse erreur que l'on fait tous, parce que on imagine que ce sont des petits personnages distincts qui vont et qui viennent selon leur volonté propre, et que nous, ben, on n'a qu'à subir ou pas leur présence ou leur absence.
Attends, je peux t'interrompre?
Oui, oui, oui.
Qu'est-ce que c'est qu'une croyance, hein, pour nos auditeurs?
Alors, une croyance, c'est quelque chose que l'on prend pour la réalité, mais qui n'est pas vrai. Ce sont des choses qui nous sont transmises par l'éducation, par nos familles ou par nos expériences. Et donc, on se base là-dessus pour construire des tas de choses dans nos vies, des projets, des couples en l'occurrence, en pensant que certaines choses sont vraies alors qu'elles ne sont pas vraies. Une croyance toute bête, c'est je vais être un peu vulgaire, mais les hommes ont un sexe à la place du cerveau. C'est un truc qu'on entend et on part avec cette croyance dans le couple en voyant ce qu'on peut trouver qui va venir confirmer cette croyance.
D'accord, ouais, c'est intéressant. On va chercher à chaque fois la confirmation de cette croyance.
Tout à fait.
Par exemple, en nous, les femmes, alors pas toutes, bien sûr, hein, mais on a cette idée, les hommes ne pensent qu'à ça.
Tout à fait.
C'est une croyance.
C'est une croyance.
Voilà,
C'est
et
une
donc du
croyance.
coup, je cherchais.
Dans tous les événements, on va aller voir ce qui correspond à ces croyances, ça va confirmer notre croyance. Et du coup, nos croyances nous font filtrer la réalité avec des lunettes un peu déformantes et on ne verra que ce qui vient appuyer cette croyance. Du coup, la croyance étant confirmée, je le savais, hein, les hommes ne pensent qu'à ça, donc mon compagnon a regardé la serveuse du restaurant, donc il pense à ça. Et donc, on embarque tout le couple et toutes nos actions par rapport au couple en se basant sur des fausses croyances. Et qui en plus vont être différentes, à la limite, il y a les croyances culturelles, mais il y a aussi les croyances qui sont très familiales. Si notre mère a été quittée pour la secrétaire, forcément on aura cette croyance-là, les hommes ne sont pas fidèles. Et dans une autre famille, on va avoir d'autres croyances. En plus, elles ne sont pas universelles, ces croyances. Alors dans un couple, le mari, il a ses propres croyances issues de sa famille, la femme va avoir ses propres croyances. Et si elles ne se rencontrent pas, évidemment, on part sur plein de malentendus.
Tu fais un parallèle aussi, je vois, sur la météo et les amours.
Oui, donc en fait, l'erreur, hein, donc pour revenir à ça, cette erreur que nous faisons, c'est comme nous pensons que nos émotions sont extérieures à nous, alors on constate, tiens, je suis amoureuse ou je ne suis plus amoureuse, je le désire encore ou je ne le désire plus, j'ai de la tendresse pour lui ou je n'en ai pas. Hein. Donc en fait, on fait un constat comme on constate qu'il fait beau ou qu'il ne fait pas beau. Il y a du soleil ou il n'y en a pas, mais je peux rien y faire. Hein, et d'ailleurs, dans les expressions populaires, on a aussi le coup de foudre, la tempête de la jalousie, le tsunami du désir. Donc, la comparaison avec la météo nous montre bien que nous croyons que nos sentiments sont indépendants de notre volonté. Et donc, puisqu'on croit que c'est extérieur à nous, on les subit comme, hein, comme des marées hautes et des marées basses. Et on est donc des espèces de marionnettes, des jouets de nos émotions, et on croit qu'on est impuissant. Alors, puisqu'en plus on a des attentes assez importantes par rapport à nos couples, hein, on pense que ça va nous apporter l'épanouissement, le bonheur, réparation de nos blessures, etc. On est dans une situation où on attend tout du couple, mais en même temps on est impuissant. Donc on est vraiment dans quelque chose qui ne peut pas fonctionner. Hein, si on attend le maximum de quelque chose sur lequel on n'a pas de pouvoir, on est dépendant de l'autre et dépendant de la situation pour être heureux. Donc on est dans une impuissance totale. Et pour moi, ça, c'est l'erreur.
On attend un peu tout de l'autre.
Voilà, on attend tout de l'autre et de la relation. Et en même temps, quand ça va moins bien, qu'on se sent en colère contre l'autre, ou qu'on le désire un peu moins, ou qu'on est triste parce qu'il n'a pas fait ceci ou cela, mais on croit que cette colère, elle est là et qu'on peut rien y faire, on n'a plus qu'à attendre qu'elle passe. Ou on croit que si on n'a plus de désir, eh bien c'est comme ça et l'autre, ben, ferait bien de faire certaines choses pour que mon désir revienne. Et donc cette combinaison de je crois que je n'ai aucune maîtrise de mes émotions et de mes sentiments, et en même temps, je suis dans une espérance inouïe de guérison de mes blessures. On est dans un paradoxe qui ne peut pas fonctionner.
Donc, tu nous parlais aussi dans le début de la rencontre de cet état euphorique. Est-ce que tu peux nous raconter justement un petit peu cette période-là?
Donc, le premier stade d'une relation. Et d'ailleurs, ça correspond un peu à des études, hein, que les chercheurs disent, voilà, l'amour dure 1 an ou 2 ans ou 3 ans, etc. C'est un moment où on est donc dans une espèce d'euphorie, parce que on a de nouveau cette espérance que nous allons enfin obtenir l'amour, le vrai, tel qu'on l'a toujours espéré et qu'on n'a jamais reçu, et qu'on va pouvoir être guéri de notre manque existentiel de reconnaissance. Et une fois que je serai guérie de ce manque existentiel, je vais enfin pouvoir déployer tous mes potentiels. Alors pendant cette période, en plus biochimiquement, on sait qu'on fabrique des tas d'hormones antidépressives, la sérotonine, la dopamine et même l'ocytocine qui est l'hormone de l'attachement. Mais cet état euphorique, en fait, ne dure pas simplement parce qu'il y a un phénomène d'habituation, comme quand on prend une drogue. Hein, quand on prend une drogue, il y a un moment où il faut encore plus et encore plus pour continuer son effet. Et donc, bah, après quelques mois où on a été shooté à la sérotonine, à la dopamine et à l'ocytocine, notre cerveau commence à s'y habituer et donc on n'a plus ce même effet euphorisant. Et là, on commence à se rendre compte, tiens, c'est marrant, ou c'est bizarre, ou c'est dommage, je me sens moins attirée, je me sens moins amoureuse, je me sens moins passionnée. Mais on fait un constat comme si c'était quelque chose sur lequel on ne sait rien faire. Et c'est là que moi aujourd'hui, je vais essayer de vous démontrer que, en fait, nos sentiments et nos émotions ne sont pas extérieurs à nous, qu'on n'est pas impuissant, qu'on n'est pas là pour les constater comme on constaterait qu'il y a du soleil ou pas, et qu'on a vraiment une possibilité d'agir sur nos sentiments et sur nos émotions et de les faire naître à volonté. Ça, c'est vraiment, si les gens ne retiennent qu'une chose de cette conférence de ce soir, c'est celle-là. Vos émotions, elles sont sous votre contrôle, elles sont gérables par vous. Vous pouvez les susciter, vous pouvez les stimuler à volonté. Ça, c'est vraiment ce que je voudrais que les gens retiennent et je vais vous le démontrer.
D'accord. Mais là, tu as dit quelque chose d'important. Tu as parlé d'amour que les personnes recherchent vis-à-vis de leur conjoint et un amour qu'ils n'ont jamais reçu. Bah, et
oui.
Ça te surprend, ça, et l'amour parental
Alors,
il y a quelques exceptions, bien sûr, mais globalement, on est tous des enfants de l'amour.
En fait, ce qui se passe, c'est que notre être profond est dans l'attente d'un amour inconditionnel, qu'on m'aime tel que je suis. L'amour humain et donc l'amour parental, il n'y a rien à faire, il est conditionnel. Même les meilleurs parents du monde, ils ont quand même un certain nombre de critères ou d'attentes, de valeurs. Hein, donc on aime nos enfants et ce n'est pas qu'on leur dit « je t'aime si », mais malgré tout on dirige certaines choses. On dit « voilà, moi je suis bien avec un enfant calme et donc je manifeste plus mon amour et mon contentement lorsque mon enfant est calme ». Donc l'enfant il retient « je t'aime si », il y a des conditions à l'amour parental. Même les meilleurs parents, attention, je ne critique pas du tout les parents, à la limite ceux qui m'écoutent sont des parents aussi, donc je crois qu'on aime vraiment nos enfants de manière inconditionnelle, mais on transmet des messages qui font croire à l'enfant que leur amour est conditionnel. Hein, je t'aime si tu es sage, je t'aime si tu réussis à l'école, simplement parce qu'on exprime notre amour plus fort et de façon plus spontanée lorsque l'enfant correspond à nos critères, même si on leur dit... de façon tout à fait consciente, je t'aime quoi que tu fasses, le jour où l'enfant ramène un magnifique bulletin, on explose de joie et ça donne à notre enfant le message je t'aime si tu réussis bien à l'école, je t'aime plus, je t'aime mieux.
D'accord, voilà. Mais donc, comme tu le disais au début, nous, on n'a pas reçu de mode d'emploi pour construire notre couple. Hein.
Tout à fait. Je pense qu'on a vu nos parents, on a vu nos grands-parents, on voit les couples autour de nous. Alors, pour ceux qui sont en recherche de développement personnel, bon, on lit des livres, on va éventuellement à des séminaires, mais dans la population générale, et souvent quand on commence un couple vers 25 ans, 30 ans, on s'est surtout occupé de créer notre carrière, de faire des formations plutôt au niveau professionnel, mais il y a très peu de jeunes de 25 ans qui d'emblée, avant de se mettre en couple, ont décidé de suivre des formations, des ateliers ou de lire des livres. Il faut déjà un premier échec amoureux, une première séparation pour qu'à 25-30 ans, on décide d'aller voir un petit peu plus près, tiens, comment pourrais-je faire pour ne plus me planter la fois prochaine.
Et donc, est-ce que tu peux nous parler de ces quatre piliers?
Oui, donc les quatre piliers, je les ai résumés dans un acronyme pour que tout le monde les retienne bien. L'acronyme, c'est CADO, C-A-D-O, je trouvais ça joli, hein, pour parler de l'amour, de parler d'un cadeau. Et donc, ces lettres-là représentent conscience, C pour conscience, A pour accueil, D pour désir et O pour objectif. Donc cadeau, conscience, accueil, désir, objectif. Alors le premier pilier du couple, et donc je reviens un peu sur ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est prendre conscience de ses blessures. Nous sommes tous des ex-enfants blessés, quelle que soit la bonne volonté de nos parents. Donc même les meilleurs parents et même nous, d'ailleurs aux États-Unis c'est assez interpellant parce qu'aux États-Unis on est à peine sorti de la maternité, qu'il y a des assureurs qui nous proposent des assurances pour le suivi psychologique de notre enfant lorsqu'il sera ado. Hein, donc on peut les maltraiter et on est de toute façon assuré pour la psychothérapie future. Donc je pense que les États-Unis étant quand même souvent en avance sur nous, je pense qu'ils ont déjà bien compris que tout le monde est un enfant blessé, un ex-enfant blessé. Donc on a vécu des manques, des souffrances, des frustrations parce que l'amour humain est donc conditionnel, donc imparfait. Et parfois d'ailleurs c'est des blessures réelles, mais c'est parfois des blessures qui viennent d'une interprétation qu'on a faite. Maman me dépose pendant une semaine chez grand-maman parce qu'elle souhaite partir en vacances. Je le vis comme un abandon. Ce n'est pas un abandon, maman ne m'abandonne pas, mais moi je le vis comme ça et hop, ça me marque et je suis porteuse de la blessure d'abandon. Donc, le fait d'être, d'avoir des blessures, c'est inhérent à la nature humaine, et ce n'est pas du tout réservé à des gens psychologiquement instables ou fragiles ou à des fous. Et d'ailleurs, la plus grosse erreur que l'on puisse faire, c'est de se dire « Ah non, moi je ne suis pas blessée, mes parents étaient parfaits. » et si on fait cette erreur-là, on ne prend jamais conscience du fait que nos blessures déterminent nos actions et nos relations. Nos relations sont toutes déterminées par nos blessures. Je prends l'exemple de cette femme qui peut-être a été laissée chez sa grand-maman pour une semaine. Elle est porteuse de la blessure d'abandon. Lorsque son compagnon va oublier de lui téléphoner, elle va le voir comme un abandon. Alors qu'en fait, son compagnon, il était peut-être très occupé dans une réunion et peut-être qu'il était occupé à lui chercher un bouquet de fleurs. Donc, mais elle va l'interpréter comme un abandon. Donc ne pas prendre conscience de nos blessures, c'est ne pas voir qu'il y a toute une série d'interprétations que nous faisons de nos relations qui ne sont pas justes, qui sont erronées. Moi je dis, nos blessures nous font porter des lunettes déformantes qui nous font interpréter la réalité selon notre filtre. Mmh. Alors prendre conscience de nos blessures, c'est pouvoir voir, aïe, j'ai eu mal parce que mon compagnon ne m'a pas téléphoné. Je pense que c'est un abandon, ça c'est un rappel de ma blessure d'abandon. Donc avant toute chose, avant de l'agresser en lui disant « espèce de salaud, tu m'abandonnes », je vais peut-être poser la question « tiens, j'étais un peu étonnée que tu ne m'appelles pas, mais tu as peut-être une très bonne raison ». Et là on va apprendre qu'il était très occupé à nous chercher un bouquet de fleurs. Hein? Mm-hmm. Donc prendre conscience de sa blessure ou de ses blessures, c'est vraiment pouvoir ne plus faire jouer à l'autre dans le couple le fait de soit le rôle du parent parfait qui doit ne jamais nous blesser, soit lui faire jouer le rôle du mauvais parent, celui qui est tout le temps en train de nous blesser. Donc, si on sait qu'on a des blessures, on ne fait pas sa crise d'adolescence dans le couple. C'est pas le lieu pour faire sa crise d'adolescence. Donc, oui, vous avez des blessures, ouf, vous êtes normal, c'est normal. Par contre, ce qui devient pathologique, c'est de tellement bien entretenir nos blessures que finalement, on embarque toute la relation sur une fausse interprétation. Je ne sais pas si je suis très claire, Nathalie. Dis-moi si ce n'est pas clair.
Oui, je suis claire, mais du coup, est-ce que inconsciemment, je ne choisis pas un conjoint pour nourrir ma blessure ?
Voilà. Donc ça, c'est le point suivant. C'est on fait en fait des castings. Et j'avais écouté récemment une conférence de Bénédicte Anne, qui est une très bonne coach de couple, et elle disait que souvent on faisait des erreurs de casting. Je partage pas cette opinion-là. Moi, je pense qu'on fait le casting parfait pour réactiver nos blessures. Cette femme qui est porteuse de la blessure d'abandon, elle va pas choisir, elle va pas être attirée par un homme qui est excessivement disponible, qui lui téléphone 3 fois par jour. Celui-là, elle va le trouver collant. Par contre, l'homme hyper occupé qui est à l'étranger toutes les semaines, qui ne sait pas l'appeler, ou l'homme marié qui, la plupart du temps, quand il a du temps libre, est avec sa famille, donc ne sait pas s'occuper d'elle, il va être très attirant. Et c'est de là que naît la passion. C'est de cette espèce de double attente. La première, c'est « je te choisis parce que tu es celui qui pourrait, qui peut réactiver ma blessure, dans l'attente que tu la guérisses pour que la fin du film ne soit pas la même ». Et donc, c'est très attirant quelqu'un qui pourrait réactiver notre blessure, puisqu'on est alors dans l'attente « ah, cette fois-ci, ça va être différent ». Mais l'acteur ou l'actrice qu'on a choisi pour jouer le rôle, il joue son rôle à la perfection. On ne va pas demander à Michel Galabru de jouer James Bond. Hein, c'est pas possible. Donc, au bout du compte, la fin du film est la même. La femme qui a choisi un homme marié dans l'espoir qu'enfin elle ne serait plus abandonnée et qu'il la choisirait, la plupart du temps, elle se retrouve avec un nouvel abandon. Ce qui vient renforcer sa blessure, donc sa croyance que les hommes m'abandonne, et donc la fois d'après, elle va encore choisir un homme susceptible de l'abandonner en espérant que cette fois-ci, ça va être différent.
Et donc là, effectivement, on est dans la répétition.
Voilà, on est dans la répétition. Alors, certaines personnes s'en rendent compte à la troisième relation qui se décline plus ou moins sur le même mode. On se dit, tiens, ce serait peut-être en moi, ce n'est peut-être pas les hommes qui abandonnent, mais peut-être moi qui me place dans des situations d'être abandonnée. Et là, on commence à avancer, parce que là, on commence à prendre conscience que ce sont nos blessures qui déterminent notre casting, et que c'est quand nous connaissons nos blessures et que nous en prenons soin nous-mêmes, que nous pouvons cesser d'être attirés par le même genre de personnes. Et donc, cette femme victime de la blessure d'abandon, au lieu d'aller tout le temps vibrer pour un homme hyper occupé ou un homme marié, elle va commencer à regarder, tiens, cet homme qui m'appelle tous les jours, c'est peut-être pas un pot de colle, c'est peut-être juste un homme présent.
Mmh. Tu peux nous citer un petit peu ces blessures que tu nous parles, dont tu nous parles?
Oui, alors il y a évidemment mon Lise Bourbeau qui est très très connue pour avoir identifié 5 blessures.
Bah, j'interviens là pour dire que dimanche, c'est notre invitée d'honneur et qu'elle va clôturer les conférences Art de vivre en famille.
Magnifique, je pense que c'est vraiment une conférence qu'il ne faut pas manquer parce que j'adore Lise Bourbeau. Je me suis moi permis d'en rajouter 2. Dans les blessures qu'elle cite, simplement parce que dans ma pratique de médecine énergétique, parce qu'au-delà de ma formation de médecine générale, j'ai fait toute une formation en homéopathie, acupuncture et médecine énergétique. Alors, sans entrer dans des choses trop ésotériques pour le public de l'événement, donc en médecine énergétique, on dit qu'il y a 7 chakras, donc 7 centres d'énergie, et que moi j'ai constaté que selon la blessure, ce chakra pouvait être bloqué. Et donc, il y a en fait, pour moi, la blessure donc, de rejet qui concerne le premier chakra, la blessure de privation, le deuxième chakra, l'humiliation abus, le troisième chakra, l'abandon, le quatrième chakra, chakra du cœur, la négation qui est le cinquième chakra, la dévalorisation pour le sixième chakra et la trahison pour le septième chakra. Et donc, quand il y a une blessure, par exemple, d'humiliation, le chakra, donc, qui est le troisième se bloque, l'énergie ne circule pas bien, donc on ne dispose pas de l'énergie qui nous permet d'avoir accès à notre puissance personnelle, puisque le troisième chakra c'est le plexus solaire, c'est la puissance personnelle. Quand on a été humilié de façon répétée, on est dépendant de l'autre pour déterminer notre valeur, donc on n'a pas notre puissance personnelle. Donc j'ai vraiment pu, enfin, je me suis permis d'ajouter 2 blessures à celles citées par Lise Bourbeau, parce que concrètement, j'ai constaté qu'en effet, selon le type de blessure, le blocage énergétique n'était pas le même.
D'accord, donc pour résumer un petit peu, nos blessures déterminent notre fonctionnement relationnel.
Oui, voilà. En fait ça génère des croyances, donc les hommes abandonnent, les hommes ne sont pas fiables. Du coup, on a des lunettes déformantes qui font qu'on voit les événements à travers ces lunettes. Il ne m'appelle pas, donc ça y est, il m'abandonne. Et du coup, on a une réaction qui est déterminée par cette croyance, que la croyance va venir me donner une émotion forte, je me sens abandonnée, je suis triste, je suis en colère, on prend son téléphone, on hurle sur le type, ouais, ça y est, tu ne m'as pas téléphoné, je savais que ce serait comme ça, etc. Et du coup, l'autre se dit, oulala, et pour peu que lui, il ait aussi choisi la bonne partenaire pour venir réactiver sa croyance, par exemple, le contrôle, hein, donc les femmes sont contrôlantes, ça c'est sa croyance, il se retrouve avec une nana qui l'appelle et qui l'engueule parce qu'il n'a pas appelé un jour, il dit « oulala, on est encore en train d'essayer de me contrôler », du coup lui il rentre dans sa propre colère, il raccroche et voilà la femme se retrouve « je le savais, les hommes abandonnent ».
D'accord, alors quelles sont les premières choses à faire hein?
Donc la première chose à faire c'est de prendre conscience de nos blessures et donc des blessures qui sont inhérentes à ça. Honnêtement, là, je pense qu'on a quand même besoin d'une personne extérieure, d'un thérapeute ou d'un coach, qui va nous permettre, parce que comme on a des lunettes déformantes, forcément, on voit la réalité comme ça, et il faut une personne extérieure qui n'est pas porteuse de la même blessure ou qui l'a travaillée, pour dire, mais tiens, il ne t'a pas appelé, mais peut-être qu'en fait, il était très occupé, peut-être qu'en fait, il était en train de te chercher un bouquet de fleurs. As-tu été creusé avant de réagir ? Donc, pour nous enlever nos lunettes déformantes, je pense qu'il faut vraiment quelqu'un qui regarde la réalité avec un tout autre regard pour nous montrer, bon, ben là, tu es dans ton interprétation de la réalité, mais ce n'est peut-être pas la réalité.
D'accord. Donc, essayer d'identifier nos blessures,
oui.
Identifier nos croyances,
oui.
Et prendre conscience qu'on regarde les choses avec des lunettes déformantes.
Tout à fait.
Et de réajuster ce regard.
Tout à fait. D'accord. Tout à fait. Sur mon site, il y a un document PDF qui propose des exercices pour identifier sa blessure principale, en partant justement de comment est ma réalité, qu'est-ce qui se passe dans ma vie en général, comment j'interprète ça, et en fonction de ça, on peut déduire sa croyance.
On arrive au deuxième pilier.
Oui, donc, donc c'était conscience, prendre conscience de ses blessures. Le deuxième pilier, il est symbolisé par la lettre A, accueillir les blessures de l'autre. Puisque forcément, bah, nous sommes tous des ex-enfants blessés, je suis une ex-enfant blessée, donc l'autre aussi est un ex-enfant blessé ou une ex-enfant blessée. Et donc, lorsque on sait ça, on peut déjà quitter la position d'être celui qui attend que l'autre soit le bon parent, qui va réparer nos blessures et nous combler. Et donc, au lieu d'être dans une position d'enfant qui est en demande face à un adulte, hein, comme en analyse transactionnelle, on décode les relations en effet dans quand est-ce que je me situe comme un enfant ou comme un adulte ou comme un parent. Bien souvent dans le couple, on est un enfant blessé qui demande à un adulte de nous réparer. Quand on sait que l'autre aussi est un ex-enfant blessé, on peut alors se mettre au même niveau. Je suis un enfant blessé, tu es un enfant blessé. Et donc l'autre n'est plus le mauvais qui ne peut pas ou qui ne veut pas me donner ce dont j'ai besoin, mais une personne qui, comme moi, a été blessée, mais qui pourrait retrouver tout son potentiel positif grâce à la sécurité que je peux lui offrir avec ma compassion. Et inversement, l'autre peut me donner la sécurité grâce à sa compassion et je pourrais alors, moi, développer tous mes potentiels. Mais alors, ce que moi j'entends souvent, et hein, y a des objections évidemment, qui est « Mais comment est-ce que je pourrais manifester de l'empathie, de la compassion face à l'autre qui me fait souffrir ?» Ou qui est si énervant, énervante, si irritant, si irritante. Hein, quand ça fait depuis des mois ou des années qu'il me blesse, comment moi est-ce que je pourrais accueillir ses blessures, l'entendre, le comprendre, alors que j'ai juste envie de lui hurler dessus, ou de pleurer, ou de me venger ? Et c'est là que on va commencer à rentrer dans cette preuve que l'on peut, on n'est pas obligé de subir les émotions. Alors, pour pouvoir vous prouver ça, je vais vous donner quelques explications scientifiques d'abord. Des explications donc, qui sont issues des neurosciences, donc même si nous ne sommes pas que de la biologie nous aide aussi à comprendre comment nous fonctionnons. Notre cerveau émotionnel, c'est le cerveau limbique. Et c'est l'ensemble, donc il y a un ensemble de circuits électriques qui vont provoquer la sécrétion de certaines hormones, qu'on appelle les neurotransmetteurs. Par exemple, la sérotonine, c'est une hormone antidépressive. L'adrénaline, c'est l'hormone du stress. La dopamine, l'hormone du bien-être, etc., etc. Alors, notre cerveau, c'est un peu comme une station de ski où il y a certaines pistes qui sont ouvertes et d'autres qui ne sont pas ouvertes. Selon ce que nous avons vécu dans l'enfance, selon le fait que nos parents étaient des gens joyeux ou des gens anxieux ou des gens tristes, il y a certaines pistes de la piste de ski qui sont ouvertes et d'autres qui sont fermées. Et donc, dans une famille anxieuse, les circuits neuronaux qui sont ouverts, c'est les circuits de l'anxiété. Alors ça, c'est facile. On y a accès, flap, vitesse de l'éclair, hein, comme une piste de ski qui est bien préparée, on peut skier facilement. Quand on fait du hors-piste ou une piste qui n'est pas encore préparée, ça demande beaucoup d'énergie pour skier là-dessus. Donc au niveau neuronal, c'est la même chose. Toutes les connexions qui ont été faites de façon régulière, elles sont faciles et celles qui n'ont pas été faites, elles sont difficiles à la base pour nous. Et donc, on est un peu accro à certaines émotions. Les gens qui ont eu beaucoup d'activation du circuit neuronal de l'anxiété, ils deviennent facilement anxieux. Ceux qui ont plutôt vécu dans une famille où on est joyeux, on rit beaucoup, eh bien, leur circuit neuronal de la joie, leur circuit neuronal de la joie sont très activés très facilement. D'accord ? Donc, on a un peu nos circuits préférés. D'accord ? Par contre, créer un circuit neuronal qui n'a jamais ou très peu activé demande un certain entraînement, hein, comme cette piste de ski que l'on doit passer plusieurs fois parce qu'elle n'a pas été damée et qu'il faut passer plusieurs fois pour avoir facile. Alors, je vais vous demander de faire un petit test et donc de fermer les yeux et d'imaginer que, après cette conférence, votre conjoint, votre meilleur ami, votre soeur, votre frère vous a préparé une surprise et a décidé de vous emmener au-dessus d'un immense pont et de vous faire sauter à l'élastique. Donc vous fermez les yeux, vous imaginez, vous sortez de chez vous, votre ami, votre conjoint vous emmène, on vous attache avec un élastique, le moniteur vous fait passer au-dessus de la rambarde, vous voyez le vide devant vous et vous sautez. Qu'est-ce que vous ressentez ? Certains vont ressentir de l'enthousiasme, moi ce serait plutôt de la peur, de la panique, de l'angoisse. Et vous pouvez voir que votre corps réagit. Il y a un rythme cardiaque qui s'est accéléré, il y a une petite oppression au niveau du thorax, il y a un nœud dans le ventre. Et si on faisait une prise de sang, on mesurerait beaucoup d'adrénaline. Pourtant, ce n'est pas la réalité. Ce n'est pas vrai évidemment. Votre conjoint n'a pas organisé le fait d'aller vous faire sauter à l'élastique. La réalité, c'est que vous êtes devant votre ordinateur à écouter cette conférence. Donc votre cerveau, il ne fait pas la différence entre l'imaginaire et la réalité. Vous pouvez, avec votre imagination, créer une émotion. Vous venez de le faire. Hein, voyez, j'imagine où je vais en venir, puisqu'on est dans les émotions du couple. On peut créer une émotion en quelques secondes. Et donc, on peut s'entraîner avec notre imaginaire à créer des émotions. D'accord ? Est-ce que je suis plus ou moins claire là-dedans ?
Oui. Tout à l'heure, les auditeurs posaient des questions sur le chat.
Oui, je serai là pour y répondre. Mais donc, l'idée, c'est de se dire, tiens, si moi, j'ai très facilement accès à la tristesse. Ça, c'est mon circuit neuronal hyper bien musclé, qui fonctionne bien, c'est ma piste de ski préférée. Je peux aussi réouvrir le circuit de la joie. Je peux créer le circuit de la joie pour y avoir accès plus facilement. Si moi, je suis quelqu'un de colérique et qui a facilement accès à la colère, je peux muscler le cerveau, mon cerveau, pour ouvrir le circuit neuronal de la sérénité. Ça demande un peu de temps, ça demande de la volonté, ça demande de l'envie de se transformer. Mais dans le couple, ça va être important justement, puisqu'on est dans le cadre d'accueillir les blessures de l'autre. Je suis en colère, tu ne m'as pas téléphoné, ça réactive ma blessure d'abandon, j'ai envie de te hurler dessus, stop. Ça c'est mon circuit de colère, je connais bien, ça marche bien. Je veux avoir accès à mon circuit de sérénité, je veux avoir accès à mon circuit d'amour. Et si je l'ai un peu entraîné, hein, même seul, soi-même, tout seul, eh bien, je pourrais en quelques minutes réavoir accès à ça. Et là, je vais aussi vous faire faire un petit exercice dans quelques instants pour cela, pour vous montrer comment vous pouvez créer votre circuit qui va vers l'amour et la compassion pour pouvoir, en cas de conflit, si vous sentez que vous êtes reparti dans votre émotion préférée qui est la colère ou la tristesse, vous arrêtez un instant, prenez 5 minutes pour avoir accès au circuit de votre compassion et de votre amour, et alors allez vers l'autre dans cette émotion-là et cette énergie-là. Avant qu'on ne fasse l'exercice, est-ce que tu voudrais que je précise certaines choses, Nathalie ?
Non, ça.
Non ? Donc, à nouveau, je vous propose de fermer les yeux. Et, oula, excusez-moi, il y a quelque chose qui est tombé. Hop, c'est mon dictaphone, je le reprends. Pardon. Donc, fermez les yeux et mettez-vous en situation du conflit, ou du dernier conflit que vous avez vécu avec votre conjoint. Si vous êtes célibataire pour le moment, vous pouvez utiliser le souvenir de votre dernière relation au moment de la séparation ou la plus grosse dispute, la chose qui était difficile pour vous. Et revoyez ce qui s'est passé, revoyez l'autre. Où vous étiez, dans quelle pièce, dans quelle situation, quel endroit. Essayez d'imaginer la météo, et, ou si c'est dans une pièce, hein, quelle était la température de la pièce, s'il y avait certains sons. Donc essayez d'utiliser tous vos sens pour vous replonger dans la situation. Je vais vous laisser quelques secondes pour le faire, pour bien vous imprégner de cette situation, et puis de prendre conscience de quelles sont vos émotions, quelle est votre émotion principale. Est-ce que c'est la frustration, la tristesse, la colère, l'énervement? Et où dans votre corps ces sensations se manifestent-elles? Maintenant que vous êtes bien imprégné de ces sensations négatives, de ces émotions négatives, je vais vous passer une petite musique parce que la musique est très très intéressante pour susciter des émotions. Et je vous demande de faire appel au souvenir de votre rencontre avec ce partenaire ou cette partenaire, ou les souvenirs d'un moment particulièrement magnifique que vous avez passé ensemble. Où étiez-vous? Quel endroit? Un restaurant? Une boîte de nuit? Une forêt? Quel temps faisait-il? Quelle température extérieure? Qu'est-ce que vous pouviez voir? Ou qu'est-ce que vous mangiez si vous étiez au restaurant? Utilisez à nouveau vos 5 sens pour vous replonger dans cette situation. Essayez de vous souvenir de ce que vous avez ressenti. La joie, la tendresse, l'émerveillement. Et essayez de vous connecter avec l'émotion de gratitude qui était les vôtres au moment où vous avez rencontré cette personne et vous vous êtes dit « Waouh, J'y croyais plus. Cette gratitude de sentir que la vie est magique. Repassez-vous le film et essayez de ressentir bien les émotions dans votre corps. Qu'est-ce que vous ressentez dans votre corps? Quelles sont les sensations? Vous respirez peut-être plus calmement, une sensation de joie, le cœur qui se dilate. Et est-ce que vous sentez à quel point votre état émotionnel est différent de celui qui était le vôtre au début de l'exercice? Vous sentez que vous êtes apaisé et que finalement votre cerveau logique peut voir les choses différemment que quand vous étiez en colère ou triste. Parce qu'en fait, il y a quelque chose d'assez impressionnant, c'est que biochimiquement, on ne peut pas être à la fois dans l'émotion de la gratitude et une émotion négative. Parce que votre cerveau, si vous lui envoyez plein de sérotonine et de dopamine, les récepteurs vont être saturés par ces hormones-là, et donc il n'y aura plus possibilité que l'adrénaline vienne vous embêter. Donc on ne sait pas sécréter à la fois de l'endorphine, de la sérotonine, de la dopamine et de l'adrénaline. Et donc avec comme ça 5 minutes, vous avez pu faire l'expérience que rester dans l'émotion de la colère, eh bien finalement c'est un choix. Vous pouvez faire le choix de susciter en vous l'émotion de la sérénité, l'émotion de la gratitude, l'émotion de la joie, l'émotion du plaisir. Et dans le couple, si vous avez envie d'être vraiment celui qui va construire une relation où l'autre peut recevoir la compassion dont il a besoin, c'est un choix que vous faites d'entretenir votre colère contre lui ou contre elle, ou de créer le sentiment de compassion qui vous permet de l'accueillir avec sérénité. C'est un choix qu'on fait. Je ne critique pas du tout ceux qui font le choix de rester en colère, de rester dans la tristesse, de rester dans le sentiment de trahison. Mais je veux que les gens prennent conscience que c'est un choix qui leur appartient. On n'est pas condamné à être en colère tout le temps, pendant des années, parce que notre compagnon ou notre compagne nous a fait un sale coup. J'ai une patiente, il y a très peu de temps, qui est venue me voir, ça faisait 5 ans, qu'ils étaient en thérapie de couple, parce qu'au début de leur histoire, alors qu'elle était enceinte, son compagnon était sorti avec une bande de copains, elle a eu des contractions, elle a dû aller aux urgences, elle n'a pas su le joindre. Elle s'est sentie trahie et abandonnée, ça fait 5 ans qu'elle lui reproche et qu'elle dit « moi je ne peux plus l'aimer, je ne peux plus le désirer, tellement je me suis sentie trahie ». Je lui ai vraiment dit « vous avez choisi de rester dans la trahison ». Et vous pouvez faire autant de thérapies, aller voir les meilleurs thérapeutes de couple du monde, tant que vous ne faites pas le choix de quitter la trahison pour entrer dans la gratitude, parce que depuis 5 ans, son compagnon, il paye l'ardoise, l'addition, elle est payée tous les jours, il a beau payer cette addition tous les jours, cette trahison reste présente parce que cette femme n'a pas fait le choix de s'en débarrasser pour aller dans une autre émotion. Donc ça, c'est quelque chose qui nous appartient. Nous choisissons l'émotion dans laquelle nous voulons aller, et si nous voulons que notre couple soit constructeur, à nous de choisir d'entretenir les émotions positives plutôt que les émotions négatives. Excuse-moi, je ne t'entends plus, Nathalie, voilà.
Et ça...
La phrase n'était pas complète, excuse-moi.
Ça prend.
Ah.
Est-ce qu'on peut... Troisième pic.
Oui, d'accord, excuse-moi. Mais j'ai l'impression que la connexion est un peu moins bonne. Est-ce que toi, tu m'entends bien, Nathalie? D'accord, ok. Donc, le troisième pilier du cours, du couple, c'est le D. Donc, cadeau, c'est ADO, qui représente le désir. À nouveau, on est dans quelque chose d'un peu semblable. L'énergie du désir, le désir est une émotion qui n'est pas extérieure à nous. Nous ne sommes pas condamnés à subir notre désir ou l'absence de désir. Dans un de ses livres que j'ai vraiment adoré, Paul Salomon disait une phrase que j'aime beaucoup, qui est « Avez-vous besoin d'être allumé ou êtes-vous le créateur de votre propre désir ?» Pour moi, ça résume tout. C'est « Est-ce que j'ai besoin de choses extérieures à moi qui vont me rendre désirant ou désirante ?» Ou est-ce que moi, j'entretiens ce feu en moi? Parce qu'au début du couple, hein, ce premier stade où on est dans une forme d'extase, de croire que nous avons rencontré la personne avec un grand L, un grand P qui va combler tous nos manques, cette sensation de passion crée un désir très fort. Donc beaucoup de couples, au début de la relation, le désir est très puissant, la passion est là, une phrase qui dit si les couples mettaient une pièce d'un euro dans une tirelire à chaque fois qu'ils font l'amour la première année de leur relation, ils n'auraient pas assez de toute leur vie de couple après pour vider la tirelire s'ils enlèvent une pièce à chaque fois qu'ils font l'amour. Donc, ce que ça signifie, c'est qu'on ferait plus l'amour la première année que toutes les 20 années qui suivent. Alors, en fait, à nouveau, c'est quelque chose qui est dit, qui est dit comme une croyance que c'est ça et qu'on doit s'y résigner. Pour moi, c'est faux. Le désir est quelque chose qui peut aussi être activé, être créé. On peut créer en nous le fait d'être désirant. Et être désirant ne se limite pas évidemment au désir sexuel. La libido, elle n'est jamais que le reflet de si nous sommes vivants ou pas vivants. Donc, même si on ne choisit pas les personnes qui nous attirent, qui vont éveiller notre désir, hein, pourquoi est-ce que telle femme aime les hommes grands et l'autre aime mieux les hommes petits, pourquoi est-ce que certains hommes aiment les brunes et les autres les blondes, ça c'est vrai que c'est extérieur à nous, mais en fait notre désir ne dépend pas de ce que l'autre fait ou ne fait pas. Et les femmes sont plus que les hommes sujettes à faire dépendre leur désir de ce que l'autre fait ou ne fait pas. Je l'expliquerai après pourquoi au niveau énergétique. Mais bien souvent dans les couples, on arrive à quelque chose qui est de l'ordre du système punition-récompense. Si tu es gentil, on fait l'amour. Si tu étais attentionné, tendre, etc., on fait l'amour. Si par contre tu m'as blessé, que tu n'es pas gentil, que tu n'es pas attentionné, on ne fait pas l'amour. Et donc c'est un système qui est extrêmement infantilisant, qui rappelle l'école primaire, où il y a une récompense si l'homme est gentil, une punition si l'homme ne l'est pas. Et ça installe dans le couple une sorte de lutte de pouvoir, et c'est la femme qui a le pouvoir. Alors attention, je ne dis pas que l'homme aurait le droit de faire l'amour quand il veut, comme il veut, même si sa femme ne veut pas, je ne suis pas partisane du viol dans le couple, mais pour l'instant, enfin, actuellement, je trouve que c'est extrêmement déséquilibré, et c'est vrai qu'en luttant pour les droits de la femme, on a bien fait, il n'y a pas de devoir conjugal, il n'y a pas de droit de cuissage, mais on est entré dans un système où finalement c'est la femme qui décide si oui ou non on fait l'amour, et si l'homme insiste un peu, il pourrait vite être qualifié d'abuseur ou de violeur. Pour moi, le pouvoir s'est renversé dans la sexualité du couple où c'est la femme qui détient le pouvoir de dire on le fait ou on ne le fait pas. Alors, d'où ça vient ça? Ça vient du fait qu'au niveau énergétique, l'énergie de la femme, elle part du haut du corps et elle va vers le bas du corps. Et donc, elle doit traverser le chakra du cœur pour aller au chakra de la sexualité. Si le cœur est blessé, qui a eu un malentendu, qui a eu un geste un peu brusque, qui a eu quelque chose qui l'a blessé, et je rappelle que c'est peut-être une blessure d'interprétation, hein, ses lunettes lui ont peut-être fait croire qu'elle était abandonnée, l'énergie se bloque au niveau du chakra du cœur, et donc l'énergie ne va pas jusqu'au chakra de la sexualité, et donc elle ne ressent pas de désir. Donc, la femme peut-être plus que l'homme doit avoir conscience de ses blessures pour pouvoir identifier quand est-ce que l'autre est venu la réactiver et puis prendre soin de sa blessure, ne pas attendre que l'homme répare sa blessure pour avoir accès à son désir. L'homme, par contre, l'énergie circule inversement. Elle vient du bas, elle traverse le chakra de la sexualité avant de monter au chakra du cœur. Donc, l'homme, lui, a plus facilement accès à l'émotion de la tendresse, à l'émotion de l'amour et à l'ouverture du cœur lorsque le chakra de la sexualité a été alimenté. Donc bien souvent, un homme, quand il a fait l'amour, devient une espèce de petit agneau adorable qui roucoule, ce qui n'était pas pendant le repas. Donc, si on coupe cette boucle, donc ça fait une boucle hein, qui part du chakra du cœur de la femme, qui va vers le chakra de la sexualité de la femme, qui nourrit le chakra de la sexualité de l'homme, qui remonte vers le chakra du cœur de l'homme, et à ce moment-là, l'homme peut nourrir le chakra du cœur de la femme et être tendre et attentionné. Mais si la femme coupe la circulation de l'énergie, la boucle ne tourne plus. Donc, le désir devient absent. Et la femme attend que l'homme s'excuse et comprenne ce qu'elle veut entendre avant d'avoir accès à son désir. Mais l'homme, lui, tant qu'il n'a pas accès à son cœur, il ne sait pas comprendre ce qu'elle a envie d'entendre. Lui, il est encore dans son mental, il lui a dit 5 fois « je t'aime », c'est pas ça qu'il faut, il ne sait pas ce qu'il faut. Par contre, après avoir fait l'amour, il va avoir le cœur grand ouvert, et là, intuitivement, il saura ce qu'il doit faire pour nourrir le chakra du cœur de sa femme. Donc, cette boucle, on a la responsabilité de la nourrir et de l'entretenir. Et la responsabilité donc chez la femme, c'est de ne pas couper, de ne pas faire dépendre son désir sexuel de si l'homme est gentil ou méchant, et donc de devenir désirante pour le désir. Parce qu'une femme, en fait, sa libido, elle est aussi le reflet de son côté vivant. Donc moi je dirais, on peut entretenir notre côté désirante. D'ailleurs les femmes me disent, quand je suis en vacances, j'ai pu avoir un massage, j'étais au soleil, j'étais à la piscine, j'ai pu être dans mon corps. À ce moment-là, elle est désirante. Donc quand une femme prend le temps d'utiliser ses sens et de ne plus être tout le temps dans sa course quotidienne, évidemment on a des vies bien remplies, hein, j'ai 2 enfants, je travaille, je sais ce que c'est, mais de se donner un quart d'heure par jour pour prendre soin de nos sens et de notre désir et de notre côté vivant, on va devenir des femmes désirantes. Et il y a un livre aussi qui a été écrit qui s'appelle « Femmes désirantes, femmes désirables ». Des femmes qui ont accès à leur désir de vie et donc à leur désir sexuel sont des femmes aussi, enfin, bien plus sexy, même si elles sont peut-être esthétiquement moins conformes au canon de la mode. Une femme désirante, une femme vivante est bien plus désirable. Donc ça, c'est le job de la femme. Restons des femmes désirantes, même quand il y a des blessures. Le job de l'homme, c'est essayer d'avoir accès à son cœur, de ne pas toujours dépendre de devoir faire l'amour pour avoir accès à son cœur. Ce qui marche bien chez les hommes, c'est la musique. Il y a des hommes qui sont en fait de grands romantiques, il leur suffit de leur passer une musique un peu romantique et ils sont presque à pleurer. Donc les hommes peuvent trouver des moyens d'avoir accès à leur cœur. Il y a d'autres hommes, ça va être de la méditation, il y a d'autres hommes, ça va être du sport. Mais que chaque homme puisse trouver quelles sont les circonstances qui les rendent ouverts aux sentiments. Ça peut être un film. Hein, donc le job de l'homme, c'est ça, c'est de rester dans l'ouverture du cœur, de ne pas trop vite aller dans le mental, le rationnel. Mais je t'ai dit 5 fois que je t'aime, qu'est-ce qu'il te faut encore, hein, c'est d'essayer d'avoir le contact avec le cœur qui permet de sentir ce que la femme a besoin de recevoir. Ces choses-là peuvent s'apprendre aussi en atelier, par exemple. Quand on anime des ateliers hommes-femmes, on essaie justement d'apprendre aux hommes et aux femmes comment ils peuvent agir sur leur propre job dans la relation.
Le temps avance.
Aïe.
Du coup, on va aborder la quatrième pilier.
D'accord. Alors, le quatrième pilier du couple, donc c'est haut, dans le haut de cadeau, c'est en fait connaître le réel objectif du couple. Alors, on baigne dans une série de croyances à nouveau, des croyances culturelles qui sont entretenues par les contes de fées et les films romantiques. Je ne critique pas, j'aime bien ça aussi, mais il faut quand même voir aussi que ce n'est pas toujours la vérité. Les contes de fées se terminent par « ils furent heureux et eurent beaucoup d'enfants ». Donc ça semble signifier qu'une fois que le couple est constitué, la vie amoureuse ne sera plus qu'un long fleuve tranquille. Le but est atteint, la quête est finie, j'ai trouvé ma moitié, je suis complet, je peux avancer. Et donc on grandit, on évolue dans une culture qui nous fait croire que former un couple est l'objectif final et qu'après on pourra se reposer, on sera à l'abri des remous émotionnels, on ne devra plus faire d'efforts. Et évidemment, ceux qui d'entre vous sont en couple depuis un certain temps ne me contrediront pas. C'est faux, évidemment. Le couple, comme dans la vie, ça change tout le temps. La vie, elle est une succession de changements. On est à peine adapté à une situation qu'il y en a une autre. Et quand on a des enfants, c'est très, très visible, ça change de mois en mois. On s'est à peine adapté au fait qu'il passe ses nuits, que tout d'un coup, il ne fait plus de sieste, etc., etc. Donc, la vie est changement, le couple est changement, et être un couple ne signifie pas devenir le gardien de musée qui surveille une momie, d'accord ? Vous n'êtes pas une momie, l'autre n'est pas une momie, le but de la vie, c'est d'évoluer. Et le couple, en fait, il est là dans votre vie pour mettre en évidence les déséquilibres, pour pouvoir les rééquilibrer. Alors là, je vais essayer de résumer, enfin d'expliquer ça brièvement, j'entre dans des notions un petit peu complexes, mais je vais essayer d'être claire. En fait, donc, par rapport à nos blessures, nous avons construit notre personnalité. Et nous nous sommes dualisés, nous nous sommes divisés en deux. Je reprends mon exemple de la femme qui a été abandonnée. Donc, sa mère l'a déposée chez grand-maman. Elle a cru qu'elle était abandonnée. Elle retrouve sa maman. Elle se dit, comment je vais faire pour ne plus jamais être abandonnée? Et elle teste des choses et elle se rend compte que lorsqu'elle est attentionnée vis-à-vis de sa maman, qu'elle lui propose de l'aider, qu'elle lui fait des câlins, sa maman est très contente, elle l'embrasse et lui fait des câlins. Donc, la petite fille retient, si je suis tendre, câline et que j'aime maman et que je prends le ménage en charge, maman m'aime, elle ne va plus m'abandonner. Et donc, elle crée ce qu'on appelle la lumière. La lumière, c'est les parties de moi que je mets sous les projecteurs pour être aimée et ne pas revivre ma blessure. Et donc, cette fille va grandir en mettant en lumière, je prends l'autre en charge, je fais des choses pour lui, pour elle, je suis gentille, attentionnée, je suis tendre. Et donc, elle va développer cette partie-là de sa personnalité. À l'inverse, elle va mettre dans l'ombre, et l'ombre n'est pas des défauts uniquement, hein, elle va mettre dans l'ombre sa capacité à penser à elle, à prendre soin d'elle-même plutôt que de prendre soin de l'autre, à ne pas toujours être gentille, à pouvoir dire stop, là t'es en train d'abuser, de me demander trop. Ça, c'est une partie d'elle qu'elle ne veut pas développer parce qu'elle croit que si elle manifeste ça, elle va être abandonnée à nouveau. Et donc, en général, quand on constitue son couple, donc 25-30 ans, notre lumière est bien constituée, on a une série de caractéristiques dont on se dit « waouh, là je suis une chouette personne », sans voir que de l'autre côté, on a négligé des capacités, des aptitudes qui peuvent être bien utiles. Cette femme qui est devenue un peu sacrificielle et qui prend tout en charge, à un moment, quand elle aura 3 enfants, elle va en avoir ras-le-bol de prendre tout le monde en charge, et elle aura envie de dire « stop, je m'en vais au bout du monde et je vous plante là parce que je vous donne trop ». Mais comme elle aura choisi un mari qui, à l'inverse, lui, aura aussi mis des choses en lumière, et bien souvent, à l'heure actuelle, ce qui se passe, c'est que, comme les hommes d'aujourd'hui ont été éduqués par des femmes qui ont fait leur couple aux environs de mai 68. Hein, moi, je suis née en 67, donc ma génération a été élevée par des femmes qui commençaient à revendiquer les droits et à dire « attention les hommes, ça suffit votre machisme, ça suffit d'abuser de nous, ça suffit, ça suffit, ça suffit ». Et elles ont transmis à leurs petits garçons « ne sois pas un homme, en gros, ne sois pas un macho, ne sois pas un salaud comme ton père qui m'a trompé, ne sois pas un dominant, hein, soumets-toi, fais comme je te le dis, sois plus féminin ». Et donc cet homme, lui, il a mis en lumière le côté un peu soumis, le côté « comme tu voudras ma chérie ». Donc quelque part, il s'est un peu transformé, je vais être un peu brutale, mais il s'est transformé en carpette, il était un lion, et sa maman lui a dit « c'est pas bien un lion, parce que ça peut être dangereux, soit plutôt une carpette ». Et donc ces deux-là se rencontrent, elle prend tout en charge, donc finalement c'est elle qui a le pouvoir, elle domine dans le couple, et c'est elle qui organise l'ensemble des choses dans la maison. Et on suit ses règles, et lui, ben, pour être aimé, il s'est dit qu'il devait être suiveur. Alors au bout de quelques années, la nana qui en a ras-le-bol de tout prendre en charge, elle va avoir besoin d'aller chercher son ombre, chercher la capacité à penser à elle, à ne plus prendre en charge, à demander qu'on la prenne en charge. Et à ce moment-là, elle risque soit de faire exploser son couple, soit de tomber amoureuse d'un homme hyper macho, dominant, le plombier, le prof de gym, le prof de ski, le maître nageur, le garagiste bien musclé qui lui est un vrai macho. C'est vachement sexy un dominant. Elle qui était dominante jusque-là et qui a mis sa capacité de soumission dans l'ombre, ah, tout d'un coup, les hormones se réveillent face à un mâle dans toute sa définition. Et donc, à quoi ça sert, ça, cette crise-là? Elle sert en fait à faire prendre conscience à la femme qu'elle doit aller rechercher son ombre, qu'elle doit pouvoir aller dans sa soumission, dans son côté suiveuse, dans le fait de demander d'être prise en charge. Et cette crise est l'occasion pour l'homme aussi de se rendre compte que le côté soumis, le côté suiveur, eh bien, ça le piège aussi, parce que finalement, la famille a pris toutes les habitudes que la femme a voulu imposer, lui, il n'a plus son mot à dire. Donc lui, finalement, dans l'éventuelle infidélité vécue parce que sa femme a craqué pour le macho du coin, eh bien, il peut comprendre qu'en fait, lui aussi a besoin d'aller chercher son ombre qui, chez lui, est sa capacité à être un meneur et sa dominance masculine. Et le but du couple, c'est ça, en fait. C'est toujours d'avancer vers le fait de comprendre ce que nous avons mis en lumière, voir en quoi c'est bien, mais voir en quoi ça nous piège, et de nous permettre d'aller réintégrer notre ombre, et que l'autre puisse, en parallèle, faire le même travail. Donc, croire que la vie de couple, ça va être un long fleuve tranquille, on va pouvoir se reposer et se consacrer à autre chose, c'est aussi une grossière erreur. Parce que du coup, à la première crise, on se dit, ouïouïouï, ça ne devait pas se passer comme ça. Moi, j'ai appris qu'ils furent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Et je me retrouve avec ma femme qui tombe amoureuse du maître de ski. Ou inversement, mon mari qui était un suiveur et un soumis, qui tombe amoureuse de la secrétaire, qui elle est une femme enfant et qui elle ne sait pas faire grand chose de ses 10 doigts et attend qu'il la prenne en charge. Et là, il retrouve sa dominance, sa force masculine et il est admiré pour sa force. Donc les attirances pour d'autres personnes, parce que les crises conjugales c'est souvent des aventures ou en tout cas des attirances, elles ne sont que le reflet de ce qui nous manque dans notre unicité, de faire la réunification ombre-lumière pour être enfin des personnes complètes. Est-ce que ce concept est plus ou moins clair pour toi, Nathalie ?
Oui, oui.
D'accord, ok, ça va, je suis plus claire que ce que je ne pense. Donc, connaître l'objectif du couple, ce n'est pas être un gardien de musée qui veille sur la momie de l'autre et être soi-même une momie, c'est de savoir que nous sommes vivants, que nous allons changer, que nous allons évoluer et que le couple est là pour nous mettre devant les yeux nos excès de lumière et de montrer en quoi c'est une prison et un piège. Ça, c'est le quatrième pilier, connaître l'objectif réel du couple plutôt que l'objectif illusoire. Ah oui, d'accord, ok, oui, c'est vrai que moi je ne t'entends toujours pas, donc je lis tes questions. Donc, je vais conclure, puisqu'il nous reste 10 minutes, une dizaine de minutes. Donc, la première chose dont vous devez vous rappeler, si vous ne retenez que ça, j'aurai atteint mon objectif. Les émotions et les sentiments que vous ressentez ne sont pas extérieurs à vous. Ce ne sont pas des petits personnages qui ont une volonté propre et face auxquels vous êtes impuissant. Vous l'avez constaté au moment des 2 petits exercices que je vous ai fait faire. Vous pouvez faire naître en vous l'émotion que vous souhaitez. Si vous êtes en colère, vous pouvez aller chercher l'émotion de la sérénité ou l'émotion de l'empathie. C'est vous qui faites ce choix-là. Donc, cessez de croire que vous êtes dépendant de si le désir est présent, si la tendresse est présente, vous pouvez le susciter. Alors, la suite de la conclusion, c'est de vous rappeler évidemment les 4 piliers. Le premier pilier, donc, c'est, puisque l'acronyme c'est CADO, C-A-D-O, le premier pilier, c'est conscience. Prenez conscience de vos blessures et comprenez bien que vous décodez la réalité avec des lunettes déformantes qui vous font interpréter les actions de l'autre comme s'il était en train de nouveau de réactiver la blessure, et ce n'est peut-être pas la réalité. L'émotion que vous ressentez n'est peut-être pas conforme à la réalité, comme tout à l'heure vous n'étiez pas en train de devoir vous préparer à un saut en élastique. Donc prendre conscience que vos blessures vous font interpréter la réalité avec des lunettes déformantes. Première chose, c'est A, accueillir les blessures de l'autre, celles du passé, celles qu'il va vous raconter ou qu'elle va vous raconter sur son passé, sur son enfance, mais évidemment toutes celles que vous allez lui infliger involontairement au quotidien. Il y a quand même peu d'entre nous qui sommes volontairement méchants, donc lorsque nous blessons l'autre, c'est bien involontaire et nous touchons un bouton qu'il va interpréter avec ses lunettes déformantes, mais elle doit pouvoir sentir que ces blessures vont être accueillies avec compassion. Si vous êtes en colère ou triste vous-même, eh bien, faites le choix de prendre 5 minutes pour activer vos souvenirs, votre gratitude, tout l'amour que vous avez pour votre partenaire au-delà de cette colère. De nouveau, ça c'est votre choix. Entretenir la colère ou être dans votre compassion, c'est votre choix. D, de cadeau, désir. Entretenez l'énergie du désir en vous. C'est un feu que vous devez alimenter vous-même. Ce n'est pas un feu qui va rester vivant si vous ne faites rien. De nouveau, le désir n'est pas une émotion qui va ou qui vient en dehors de votre volonté. Et donc, surtout, les femmes, apprenez à devenir désirantes, puisque votre désir, c'est le reflet de votre connexion à la vie. Devenez vivante, donnez-vous l'occasion de stimuler le désir et la vie en vous, surtout en utilisant vos sens. Aux hommes, veillez à relier désir et cœur, veillez à rester connecté à votre cœur régulièrement, trouvez les outils qui vous permettent d'ouvrir votre cœur, que ce soit de la musique, de la méditation, que ce soit un film, etc. C'est votre job pour faire tourner cette boucle du désir dans votre couple. Dernier pilier, le O de cadeau, objectif. l'objectif réel du couple n'est pas que vous soyez chacun la moitié d'un tout qui va rester immuable jusqu'à la fin des temps, mais que vous soyez chacun un tout complet à vous tout seul. Et donc que la réunification de votre lumière et de votre ombre sont ce à quoi vous aspirez sans toujours le savoir. Les crises dans le couple, les infidélités, les fantasmes sont des outils qui peuvent vous montrer ce qui vous manque et quelle est la partie de vous que vous avez mise dans l'ombre et que vous devez utiliser, ou que l'autre manque et qu'il a besoin d'utiliser. Et accueillez ces crises comme des occasions pour tous les deux d'avancer vers cette réunification ombre-lumière pour être tous les deux des êtres complets. Voilà l'essentiel. Sur le site, donc sur mon site, je l'écrirai dans le chat puisque juste maintenant, donc il y a un chat qui va vous permettre de poser vos questions et j'essaierai de répondre au plus de personnes possible. Sur mon site, donc www.véroniquebaudou.com, il y a un espace membre. Bon, il faut s'inscrire le site pour répondre, pour recevoir le mot de passe. Et sur cet espace membre, vous aurez différents outils. Il y a une méditation guidée justement pour vous permettre de réactiver des émotions positives. Il y a un PDF qui vous permet d'identifier vos blessures. Il y a différentes choses qui peuvent vous être utiles. Inscrivez-vous. Je vous enverrai pas de pub. Je vous tiendrai juste au courant des différentes activités. Mais vous avez là des outils et je le nourris régulièrement. Et donc le chat après pour les questions. Et puis j'espère évidemment vous revoir aux ateliers que je co-animerai avec d'autres experts de l'événement, avec Laurent Marchand qui est un coach extraordinaire, avec Luc Marie qui est un partenaire professionnel absolument fantastique. Il y aura différents ateliers, ceux qui sont plus destinés au couple et puis ceux qui sont destinés plutôt au développement personnel. Mais évidemment Nathalie vous transmettra toutes ces informations utiles en temps et heure.
Eh bien, merci beaucoup, Véronique.
Merci à toi, Nathalie, et merci à tous ceux qui ont assisté à cette conférence. Je pense que ça doit être souligné que c'est excessivement rare que les gens prennent comme ça sur leur soirée, après des journées bien remplies, pour suivre des conférences de développement personnel. C'est toujours un plaisir de participer à ce genre d'événement pour encourager et pour aider tous ceux qui ont envie d'avancer. Ce n'est pas fréquent et donc félicitations à vous qui avez tenu jusqu'au bout pour m'écouter dans toutes mes explications.
Merci à toi et excusez-nous pour ces petits défauts d'audition.
Eh bien écoute, j'espère que malgré tout ça aura été clair.
Oui, merci.
Au revoir Nathalie.